Europe 1.
8h13 sur Europe 1. Votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, c'est le secrétaire général de la CFDT.
Et auteur d'un essai remarqué intitulé « Du mépris à la colère ». Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
14e journée de mobilisation en ce jour contre la réforme des retraites avec une grande différence. Cette fois-ci, la loi a été adoptée, validée par les sages et même des décrets ont été promulgués. Dans ce contexte, à quoi sert ce rassemblement? Est-il un baroud d'honneur?
C'est pas un baroud d'honneur, mais c'est deux éléments un peu importants. Le premier, c'est que il y a toujours une opposition très forte aux 64 ans et toujours une colère, un ressentiment dans le monde du travail. Et on va le voir avec un chiffre de mobilisation qui vont encore être conséquents aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est que il y a plein de sujets qui ont été mis sur la table par le gouvernement, et notamment un sujet central depuis maintenant plusieurs mois, qui est le sujet du pouvoir d'achat, la question des conditions de travail, de l'organisation du travail, c'est le sujet de mon essai, de la question du dialogue social dans l'entreprise, et que c'est un moment aussi pour montrer notre force, et dire, voilà, sur tous ces sujets-là, va falloir faire un peu autrement en termes de méthode de ce qui s'est passé sur la question des retraites. Puis troisième élément, je crois quand même, il y a l'Assemblée nationale dans sa composition entière, ne s'est jamais prononcée sur les 64 ans. S'il y avait possibilité de le faire le 8, ce serait quand même bienvenu. Malheureusement, je pense que ce n'est pas très bien parti.
Vous demandez d'ailleurs qu'il y ait un vote, vous demandez à la présidente Yael Braun-Pivet de laisser les députés voter ce jeudi 8 juin, même si vous le savez, elle a dit à l'antenne d'Europe 1 qu'elle va actionner le fameux article 40 pour rendre irrecevable l'amendement.
Oui, c'est légalement possible, c'est démocratiquement, on a un sujet quand même. Vous voyez bien que cette réforme des retraites, moi, vous me connaissez, j'ai jamais menti. Cette réforme, le décret est publié sur 64 ans. Il n'y a jamais eu de vote à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Jamais.
Puisque vous êtes sincère et qu'on doit l'être, on doit être objectif, si, il y a eu un vote sur la motion de censure.
La motion de censure, c'est autre chose que l'acceptation d'un projet de loi. La motion de censure, c'est le fait qu'on ne veut pas renverser le gouvernement. Et ça, ce n'est pas mon affaire, d'une certaine manière. Si l'histoire aurait été très différente si on la réécrivait juste maintenant, s'il y avait eu un vote ce fameux jeudi, je crois que c'était un jeudi, on saurait, le vote aurait été majoritaire, cette réforme elle s'appliquait, c'est la démocratie. Le vote aurait été minoritaire, on aurait fait autrement, on aurait mis l'ouvrage sur le métier, parce qu'il y avait une autre réforme des retraites possible. Encore une fois, il y avait un autre financement du déficit possible. Il y avait une réforme plus juste à construire dans un système des retraites. On l'avait fait, ces propositions. On les a fait, contrairement à ce qui va être martelé, ce qui est martelé depuis des mois. La CFDT a fait des contre-propositions qui n'ont jamais, jamais été entendues.
Mais sachant, Laurent Berger, qu'il n'y a plus de probabilité pour que l'exécutif revienne en arrière sur cette réforme, ce devrait être quand même logiquement la dernière journée de mobilisation. Vous êtes lucide sur ça.
Oui,
vous me
sûr.
Dites mobilisation conséquente avec probablement une nette baisse. Parce que d'abord, c'est difficile pour de nombreux Français travailleurs d'être dans la rue.
Oui, et puis parce que les travailleurs, ils savent bien que sur le sujet des retraites, avec un décret sur les 64 ans qui est publié, ça devient de plus en plus compliqué.
Dernière journée de mobilisation.
On le décidera ensemble, mais probablement, évidemment, que sur le sujet purement des retraites, c'est sans doute une des dernières journées de mobilisation. Et j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, raison de plus pour y aller dans les 250 cortèges, il y a toujours autant de mobilisations, toujours autant de manifestations. Et il y aura, vous verrez, dans un certain nombre de villes, de petites villes, de provinces, autant de monde quasiment, ou en tout cas beaucoup de monde.
Et c'est un signal important, vous l'avez toujours relevé.
Oui, c'est le signal de ce ressentiment dont je parle, de cette colère, c'est-à-dire ce sentiment de ne pas avoir été écouté, de ne pas avoir été considéré dans la façon dont on travaille, dans le fait que... Vous voyez, ce débat, il n'a pas porté sur le travail, il aurait dû porter sur le travail. Quel est l'élément structurant de la vie de beaucoup, beaucoup, de la majorité des citoyens de ce pays, et qui ont le sentiment qu'on ne parlait pas de leur travail, qu'on leur parlait de chiffres. C'est pas inintéressant, les chiffres, mais si ce n'est pas connecté à des réalités concrètes, à un travail réel, ça ne marche pas dans la tête des gens.
Ça, c'est l'erreur originelle, on va y revenir. Laurent Berger, vous me dites probablement la dernière journée sur la réforme des retraites. Malgré tout, je ne veux pas pointer ici de différence avec la CGT, mais il y en a une. Sophie Binet affirme que rien n'est écrit d'avance, que rien n'est terminé dans la lutte contre la réforme des retraites. Elle fait fausse route ?
Non, mais elle est dans la ligne de son organisation.
Qui n'est donc pas la même que la vôtre.
Vous savez, l'intersyndicale, c'est deux choses. C'est d'abord un fonctionnement qui a été réglo entre nous jusqu'au bout. Et c'est la démonstration que quand on parle d'une seule voix sur des sujets sur lesquels on est 100% d'accord, on fait écho dans le monde du travail. Mais ce n'est pas le syndicalisme rassemblé, on a encore des divergences.
Oui, parce que là, elle veut entretenir le mouvement, et clairement, vous, à vous écouter ce matin, cette colère, vous voulez la transformer.
Moi, cette colère, je veux la transformer, la CFDT veut la transformer en rapport de force pour obtenir des résultats sur le pouvoir d'achat, sur l'amélioration de l'organisation du travail et des conditions de travail, c'est un élément central du débat qui n'a malheureusement pas eu lieu, sur le dialogue social, sur la revalorisation des agents publics qui souffrent aujourd'hui de salaires extrêmement bas. Et juste pour vous dire, un agent de catégorie C de la fonction publique, il reste 12 ans au SMIC. Est-ce que c'est normal ? La réponse est non.
On voit bien malgré tout que l'exécutif, lui, a tourné la page des retraites avec un Emmanuel Macron hier arpentant, pardonnez-moi, les ruelles du Mont Saint-Michel. Malgré la colère prégnante et les fractures persistantes, Laurent Berger, Emmanuel Macron, il a réussi son pari de passer à autre chose. Pas de fermer la séquence, vous n'aimez pas ce mot, mais de passer à autre chose.
Mais je crois que c'est le problème, c'est pas que individuellement, tel ou tel, et même le président de la République, passe à autre chose. C'est que notre société... Elle retrouve du commun. Et c'est quoi le commun ? C'est quoi les perspectives aujourd'hui ? C'est la transition écologique, la transition énergétique. Si on va pas radicalement vers ça, on fait fausse route. On fait fausse route, y compris pour construire des perspectives communes. Il y a un très bon rapport qui est sorti de Jean Pisani-Ferry et de Selma Mahfouz. Qu'on l'écoute, bazar, qu'on l'écoute. Il est en train d'être mis dans un placard pour pas écouter. Il y a besoin d'investissements massifs là-dedans. Si passer à autre chose...
Qu'est-ce que vous avez retenu de ce rapport, pardonnez-moi ?
J'ai retenu qu'on a 10 ans pour agir, pour faire ce qu'on n'a pas fait en 30 ans. Mmh. Et pour le faire, il faut investir massivement, de l'investissement privé, de l'investissement public. Et pour ça, il faudra faire contribuer notamment les très hauts revenus. C'est ça, j'ai retenu ça. Et après, ce rapport, rien que la synthèse, a fait plusieurs centaines de pages.
Vous avez vu que l'exécutif l'a mis de côté,
oui,
hein, sur la contribution des plus hauts revenus.
On a besoin de redonner de la perspective. Vous avez dit que je ne mets pas le mot séquence. Tout simplement parce qu'on ne fonctionne pas par séquence. On a besoin de recréer de la perspective positive du progrès. Ça passe par la réduction des inégalités, il faudra bien venir. Ça passe par une reconnaissance du monde du travail différente. Donc vous voyez, je pense que le président de la République fait fausse route quand il pense que cette étape-là est finie dans la tête des gens. Ce n'est pas vrai, ils ne sont pas passés à autre chose.
Les Français n'ont pas digéré, on va le voir dans la rue. Certains le disent, la réforme des retraites.
Non, ils n'ont pas digéré. Puis vous savez, des fois, on peut donner le sentiment de digérer puis faire une indigestion un peu plus tard.
Et c'est ça qui est dangereux. Et qu'est-ce qui peut se passer ? Parce que l'indigestion, vous l'avez qualifiée de crise démocratique.
Oui, je continue de le dire. Ouais,
c'est quand Avec de lourdes conséquences, hein, Laurent Berger.
Non, mais vous savez, quand vous avez une défiance dans les institutions aussi importante qu'on l'a aujourd'hui, quand vous avez un ressentiment social aussi fort, et notamment dans le monde du travail, qui touche aussi profondément en termes de catégories socio-professionnelles que de territoires, eh bien, vous avez le terreau pour avoir des votes populistes, des votes dirigés notamment vers l'extrême droite et qui sont, de mon point de vue, un danger.
On va parler de ces votes. Restons un moment sur le climat, sur les salaires aussi, et le climat social. L'ONG Oxfam appelle à réduire l'écart entre salariés et grands patrons. Selon un rapport publié en avril dernier, entre 2011 et 2021, l'écart de rémunération entre les grands patrons des 100 plus grandes entreprises françaises et le salaire moyen de leurs employés est passé de 64 à 97. Est-ce qu'il faut plafonner ces salaires avec une législation ?
Il faut un écart maximum de rémunération. C'est
donc
ce que porte la Confédération européenne des syndicats, que j'ai présidé jusqu'à la semaine dernière, et c'est ce qu'on pense, c'est-à-dire que, est-ce que le rapport est de 1 à 20, on peut en discuter, moi je suis pas, certains disent moins, mais en tout cas, oui, vous savez, ça ne résoudra pas tous les problèmes. Moi je vends pas du rêve. Mais aujourd'hui, il faut manier, quand on veut définir un projet collectif dans un pays, il faut manier des décisions concrètes et du symbole. Aujourd'hui, c'est pas possible d'avoir une population...
C'est du symbole ou de la démagogie ?
Non, c'est du symbole. La population, c'est du symbole et c'est une mesure juste. Il y a un affaiblissement des bas salaires. On a un problème bas salaire dans notre pays. Il y a des gens qui restent longtemps au SMIC, malgré le développement de leurs compétences, de leurs qualifications, etc. Et on a des très hautes rémunérations des entreprises qui explosent. C'est pas possible, en fait. Il faut un maximum d'écart. De 1 à 20, ça paraît raisonnable. Et je crois que ça, c'est aussi comme ça qu'on recréera du commun. C'est-à-dire que moi, je veux pas laisser le sentiment qu'il y en aurait... qui se gaveraient, et puis d'autres qui... Vous voyez, c'est ça qu'il faut éviter. C'est ces discours-là qui, il y en a, et qui cherchent des boucs émissaires. Si on veut, il faut que les grandes entreprises, les grands patrons, soient aussi un peu raisonnables, citoyens, et je pense que d'avoir des rémunérations...
Mais peuvent-ils l'être d'eux-mêmes, ou faut-il passer par la législation pour cela ?
Les codes de bonne conduite, ça n'a pas fonctionné, on est d'accord.
Donc
ça veut dire qu'il faut passer par la législation.
Ah, donc le bâton, la loi.
Non, mais c'est pas le bâton, c'est la réglementation.
La contrainte.
Oui, mais un peu de contrainte, ça fait pas de mal, on en a tous dans nos vies.
Mm-hmm. Sinon, vous dites que cela alimente les discours populistes. Vous aviez prévenu depuis longtemps, Laurent Berger, que le Rassemblement national était en embuscade sur ce sujet, comme d'autres. La phrase de la Première ministre a fait couler beaucoup d'encre sur le RN héritier de Vichy. Le président s'en est écarté, affirmant qu'il ne fallait pas utiliser ce genre d'arguments moraux. Puis finalement, il est revenu sur sa phrase. Mais pour vous, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Elisabeth Borne ?
Oui, je suis d'accord avec ce qu'a dit Elisabeth Borne.
Héritier de Pétain ?
Oui, je crois que d'ailleurs, je suis d'accord avec Madame Borne, que ce parti politique est héritier de Pétain. Et je suis complètement convaincu qu'il faut lutter contre la montée de ce parti en agissant sur les causes sociales, qui est le ressentiment et le sentiment de relégation d'une partie de la population.
Il ne fait qu'augmenter.
Et de l'autre côté, en portant des sujets, y compris sur la question morale, même si le terme mériterait d'être déployé. Il ne fait que monter, tout simplement parce qu'on ne répond pas aux préoccupations sociales. Et que ça donne le sentiment qu'il n'y a pas de perspective par ailleurs. Vous savez, on est dans une période extrêmement...
Pardonnez-moi, c'est un aveu d'échec de votre part aussi. Ça fait 11 ans que vous êtes à la tête de la CFDT. Vous me dites, il ne fait qu'augmenter, on ne répond pas aux questions sociales.
Moi, je peux travailler, je peux cultiver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'il y a de la présence syndicale, chaque fois qu'il y a de la CFDT, le Rassemblement national est moins fort. Vous pouvez regarder nos zones d'implantation. On a publié nos chiffres hier. On a fait plus d'adhérents en 2022 et surtout en 2023, on a 43 000 personnes en plus qui ont rejoint la CFDT. Je crois que rien que le chiffre 43 000, c'est plus que certains politiques, le nombre d'adhérents de certains partis politiques. Aujourd'hui, on a à peu près, sans doute, autour de 650 000 adhérents. On en avait 610 000, 612 000 fin 2022 et vous voyez bien qu'on augmente. Donc, et à chaque fois, on le fait en étant très ferme sur nos valeurs, nos ambitions et nos pratiques. C'est-à-dire que la démocratie, ce n'est pas simplement que des idées, c'est aussi de la pratique démocratique. Et c'est ça qui pêche aujourd'hui.
Alors justement, vous en parlez dans votre livre, Laurent Berger, un essai intitulé « Du mépris à la colère ». Tout d'abord sur le titre. Alors, on vous connaissait au départ, c'est vrai, calme. Et puis la colère vous a rapidement
agité. Non, je ne suis pas en colère. Je parle du monde du travail. Je suis toujours calme.
Vous n'êtes pas un homme en colère ?
Je suis préoccupé, je suis en colère, je suis indigné d'un certain nombre d'injustices et d'inégalités. Je suis indigné parfois de la non-reconnaissance du travail, mais je ne suis pas en colère au sens où je veux que ce soit une colère prospère, dans ce qui était fructueuse. Ce que je décris dans ce livre, c'est que le travail est pris en otage entre deux visions binaires. Une vision purement productive et économique du travail, alors que c'est une réalité sociale le travail, et de l'autre côté, une vision du travail qui serait une vision misérabiliste.
Portée par une certaine gauche et ses œillères qui lui ont éloigné du monde du travail. Mais quelle est cette gauche ? Parce qu'aujourd'hui, pour être lucide, il y a deux gauches. Une gauche qui se présente comme étant anti-NUPES, une gauche de responsabilité, la gauche pour la définir Cazeneuve, et puis la gauche Jean-Luc Mélenchon. Quelle est votre gauche à vous ?
Ah, moi, je n'ai pas de gauche, moi. Moi, je suis un syndicaliste. Et vous le savez, je ne m'engagerai pas en politique. Moi, j'ai juste,
mais vous avez bien
j'ai
le
juste
cœur
le
quelque
sentiment.
Part, le cœur est-il à gauche ?
Ce que j'explique dans ce livre, c'est qu'il faut que la gauche redevienne une gauche travailliste, c'est-à-dire qui part du monde du travail. Et que, quelles que soient les deux gauches que vous décrivez, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, quelles que soient ces gauches, elles ont du mal à parler du travail autrement qu'en vision misérabiliste ou autrement qu'en vision aussi purement productive.
Alors
le travail, c'est autre chose. Eh bien, en reparlant, en ayant plus dans ces troupes d'ouvriers. Oui, il faut des porte-voix, c'est à eux de les définir.
À moins de deux semaines de votre départ de la tête de la CFDT, que voulez-vous qu'on retienne de vous, Laurent Berger ?
De moi, pas grand-chose. J'en ai pas grand-chose à faire de la CFDT, qu'elle est devenue la première organisation syndicale de ce pays, qu'elle s'est ancrée dans le débat public. Elle a jamais manié ni la démagogie, ni l'irrespect, mais qu'on a dit ce qu'on avait à dire.
Avec quelle politique vous êtes le plus entendu ?
Ça mériterait du temps, ça. On est presque à la fin de l'interview. Ça dépend, il y en a de tous bords.
Je vous donne quelques minutes avec Dimitri, qui est d'accord.
Il y en a de tous bords.
Le plus,
je ne saurais pas le dire, en fait. Vous savez,
faites de leur langue de bois.
Non, je vous assure, je suis resté assez en dehors, hormis ma fonction qui m'a amené à les rencontrer. Je ne les ai jamais rencontrés à l'extérieur.
Je vais vous faciliter la tâche.
Mais vous savez...
Celui avec lequel vous êtes le moins entendu. Il est peut-être au sommet de l'État ?
Non, moi, je n'ai pas voulu rentrer dans cette personnalisation. On a deux conceptions différentes, et de la démocratie sociale, la place des corps intermédiaires, et de ce dont a besoin une société avec des parcours de vie qui sont différents d'un citoyen à l'autre, et qu'il faut des logiques d'accompagnement et un peu de soutien, et pas simplement des logiques de « on te met un coup de pied au derrière ». Mais moi, je n'ai pas voulu personnaliser. Vous savez, je vais faire autre chose.
Oui, justement. C'est probablement notre dernier entretien ici sur Europe 1. Si dans quelques mois, peut-être même à la rentrée prochaine, je vous recevais, je dirais bonjour Monsieur Laurent Berger. Quelle fonction, quel statut pour vous présenter ?
Vous verrez en septembre, parce que je crois que je ne dévoilerai pas grand-chose avant septembre.
Merci en tous les cas. Ce que vous dévoilez, c'est votre livre et vos idées, vos valeurs, comme vous dites depuis longtemps, intitulé « Du mépris à la colère ». Merci Laurent Berger.
Merci.